Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail. Le 26 février dernier, Dino Scala, mécanicien monteur, est arrêté près de chez lui à Pont-sur-Sambre, vers 6h du matin. Dans sa voiture, les policiers trouvent un couteau, des gants noirs, une cordelette pour attacher ses victimes. Dino Scala est le violeur de la Sambre. Devant la juge d'instruction, il le reconnaît. Je m'attendais à me faire arrêter et ça m'a fait du bien.
Il est parfaitement conscient, il est capable de dire que ce qui lui est reproché aujourd'hui, c'est très grave et que c'est sévèrement puni par la loi. Enfin, c'est quelqu'un qui prend vraiment conscience de l'ampleur, de l'enjeu et du tort, du mal qu'il a pu causer à ses victimes.
Depuis 1988, des centaines d'enquêteurs l'ont cherché, en vain. L'homme a été confondu par la vidéosurveillance lors de sa dernière agression commise en Belgique au début du mois de février.
C'est un fait divers terrible, une suite de faits divers qui se sont déroulés sur 30 ans, de 1988 à 2018, 30 ans au cours desquels Dino Scala a pu violer en toute impunité suite aux erreurs et même aux errements de la police. C'est le sujet du livre d'Alice Géraud, Sambre, radioscopie d'un fait divers aux éditions Lattès.
Dino Scala aurait agressé, violé pendant 30 ans dans un rayon de 15 km entre le nord de la France et la Belgique, sans jamais rien laisser paraître de sa double personnalité. Jusqu'en 2018, Dino Scala mène tranquillement ses activités professionnelles, s'investit dans les associations sportives et devient même président du club de football de son village. Monsieur tout le monde la journée, prédateur sexuel au petit matin. Dino Scala aurait-il pu être arrêté plus tôt? Selon certains, des décisions prises lors de cette enquête sont en tout cas discutables.
Et c'est le super fail de la semaine. On écoute la journaliste Alice Géraud. Elle nous présente cette affaire de crime en série perpétrée par Dino Scala.
Dino Scala est un homme qui a agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes durant 30 ans, toujours de la même manière, le matin, sur la route entre son domicile et son travail, soit 27 km d'une route qui longe une rivière qui s'appelle la Sambre, dans le nord de la France et dans la région de Maubeuge, une petite région isolée et assez sinistrée économiquement, quasiment coincée contre la Belgique, et d'où son surnom de violeur de la Sambre. Et ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est qu'il a commis ses crimes pendant 30 ans sans jamais être inquiété ou soupçonné. Et la question qui se pose autour de lui, c'est comment est-ce possible? Et c'était la question à laquelle je voulais répondre dans ce livre. Et en fait, c'est une sorte de... l'idée était de faire une sorte d'autopsie de ce fait divers, parce que ce fait divers est un gigantesque échec. Alors, c'est un échec policier, judiciaire, mais plus largement, moi, je pense que c'est l'échec de notre société sur notre incapacité à regarder et à traiter la question du crime sexuel. Et non accessoirement, à considérer ses victimes. Voilà. Et donc, dans le livre, l'idée, c'est de décortiquer la mécanique de cet échec.
Un extrait d'un reportage de France 3 Hauts-de-France en 2019.
Il y a eu beaucoup de victimes et je pense qu'on aurait pu l'arrêter avant.
Il était grand temps qu'on le retrouve, quoi, parce que bon, après tout ce qu'il a fait...
C'est bien fait pour sa gueule. Bah ouais, c'est pas un être humain, ça, c'est un chien.
Il y a tellement longtemps qu'il passe entre les mailles du filet qu'il fallait bien qu'un jour ça lui arrive.
David Lavaux était déjà bourgmestre entre 2004 et 2006, les trois années où le violeur du matin sévissait à Erquelines, une commune située à quelques kilomètres à peine du lieu de travail de Dino Scala.
On a quand même connu pendant plusieurs années consécutives des agressions, des viols, et notamment en 2006, où là ça a été trois viols consécutifs là, qui ont marqué à l'époque la population. Ça a créé un climat de peur évidemment, et puis à l'époque on avait dû mettre des, des patrouilles de police supplémentaires pour sécuriser un peu les personnes et leur permettre d'aller un peu plus calmement vers leur lieu de travail notamment.
Comment Dino Scala a-t-il pu commettre ces nombreuses agressions pendant 30 ans sans être arrêté? Dans son ouvrage, Alice Géraud met en lumière l'incapacité de la police à accueillir correctement les victimes et leurs plaintes.
En matière criminelle en général, le dépôt de plainte, c'est la première pièce d'un dossier, celle qui va conditionner le reste d'une éventuelle procédure. Ça permet d'enclencher éventuellement une suite, de transmettre à la justice, de faire des rapprochements, je ne sais pas, de collecter des indices. Or, on voit que dans cette affaire, les premières plaintes sont souvent très mal prises. Je rappelle que ça commence en 1988, donc il y a 30 ans. On a des policiers qui ne sont pas formés, qui n'ont aussi aucun moyen. Je prends un exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. Un policier me dit, oui, du commissariat d'Aulnoy-Aymeri, il y a très longtemps, me dit, oui, vous savez, effectivement, on a pris souvent des mains courantes au lieu des plaintes. Mais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de papier pour imprimer. Voilà. On est aussi face à une indigence du système policier et judiciaire qui n'est pas, à mon sens, qui n'est pas anecdotique. Et puis, surtout, les policiers ne vont pas considérer que ces agressions sont très graves. Et on leur dit d'ailleurs souvent, c'est pas grave, t'as eu de la chance, y a pas eu mort d'homme. Et en ne considérant que c'est pas très grave, ils vont pas forcément très bien travailler sur cette affaire. Les 12 premières années de cette affaire, de 1988 à 1996, date à laquelle une juge d'instruction va s'emparer du dossier, la justice ne va pas être informée, il y aura aucune enquête judiciaire. Ces agressions, ces viols vont être laissés comme ça en friche dans les archives des commissariats. Et puis très souvent surtout, régulièrement je dirais, on ne va pas croire ces femmes, notamment si ce sont des adolescentes. Moi c'est quelque chose que j'ai noté dans l'enquête. La parole que l'on remet en cause, ce sont systématiquement celles des adolescentes.
Si les plaintes ne donnent pas lieu à des poursuites judiciaires, c'est tout simplement parce que la police ne les qualifie pas correctement.
Constate sur les procès-verbaux de plainte que les qualifications ne correspondent pas aux faits. Alors soit on gomme la dimension sexuelle, notamment sur les agressions sexuelles, on va transformer une agression sexuelle en tentative de vol, quand bien même on n'a rien volé à ces femmes ou ces adolescentes, et, ou alors on va mettre des menaces de mort, parce qu'effectivement il leur disait « si tu bouges, je te tue ». Et on va gommer ou euphémiser la dimension sexuelle. Lorsqu'il s'agit d'un viol, dans le cas de Dino Scala, il y a eu un certain nombre de viols par fellation, alors que la fellation est reconnue comme viol depuis 1980, on va transformer le viol en agression sexuelle. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire que derrière, la justice n'est pas saisie de ces faits et reste muette face à des faits qui sont quand même une série qui est relativement impressionnante. Je rappelle qu'in fine, Dino Scala, lorsqu'il est arrêté, c'est l'un des plus importants violeurs en série jamais arrêtés en France. Et pourtant, pendant très longtemps, on ne voit pas cette série parce que les plaintes sont mal prises.
En réalité, la police voit des crimes, mais pas des crimes à répétition, tout simplement parce qu'elle a peu de mémoire, comme l'explique la journaliste Alice Géraud.
Il y a quand même autre chose. Je regarde moi cette affaire avec mes lunettes de 2023. Cette affaire commence en 1988. On est à la préhistoire de la police scientifique. Il n'y a pas d'ADN, il y a encore moins de fichiers ADN. Ça arrivera à la fin des années 90, après l'affaire Guy Georges. Mais au-delà de ça, moi, j'ai été frappée par le fait qu'on n'a pas d'informatisation. Et qui dit pas d'informatisation, ça veut dire pas de recoupement d'informations. Voilà, donc on n'a pas de mémoire de cette affaire, on n'a pas de mémoire artificielle. Et on a très peu de mémoire humaine. On pourrait en avoir dans les commissariats, mais par exemple, dans le tribunal de la circonscription, qui est le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe, que les jeunes magistrats surnomment souvent Avensurhelp, H-E-L-P, parce qu'ils ne veulent pas y aller. Ça en dit assez long. Et dans ce tribunal, on a un turnover complètement incroyable de magistrats, de magistrates d'ailleurs, parce qu'il n'y a eu que des femmes et que des sorties d'école quasiment dans cette histoire. Ça en dit, à mon sens, assez long. À l'absence de mémoire artificielle, ne se substitue aucune mémoire humaine pour porter cette affaire et s'y intéresser. Voilà, ça, c'est aussi des dimensions qui expliquent des choses.
La parole des victimes n'est tout simplement pas écoutée, en tout cas pas écoutée comme elle aurait dû l'être, d'où l'échec monumental qui va mener à l'impunité de Dino Scala pendant près de 30 ans.
Il y a une forme de maltraitance des victimes très forte, qui est une maltraitance institutionnelle de la police, puis de la justice, qui est rarement intentionnelle. Rarement malveillante, elle l'est parfois. Il y a des scènes extrêmement violentes de dépôt de plainte, hein, qui sont sexistes, qui sont misogynes, qui sont terribles. Mais cette maltraitance, elle est évidemment, elle crée de la souffrance, elle ajoute de la souffrance à la souffrance. Il faut entendre les victimes quand elles parlent de deuxième viol. Elle prononce pas ces mots de façon anodine. Mais au-delà de la souffrance et de ce que ça provoque dans la vie des victimes, c'est terrible pour le reste de la procédure parce que ça rend complètement contre-productif la chaîne d'une procédure, la justice. D'abord parce que ça décourage des victimes de porter plainte, de se lancer dans une procédure. Mais on voit à quel point, l'indifférence des policiers crée une forme d'indifférence dans leur travail avec des procédures, ce que je disais, mal faites. Et après, c'est tout un enchaînement d'échecs qui fait que les procédures n'aboutissent pas, et celle-ci en particulier.
Un criminel en série, c'est tout simplement un criminel à qui on a laissé le champ libre, libre d'agir comme il l'a fait pendant 30 ans. Tout cela est raconté dans le livre d'Alice Géraud, Sambre, radioscopie d'un fait divers aux éditions Lattès. Superfell a été ruiné à la production par Juliette Deveau, dévasté à la technique par Marie-Claire Oumabadi. Et enfin, dévasté à la réalisation par Vivien Demeyer et Félicie Faugère. Le podcast Enquête d'idées repose sur une idée simple. Les idées, comme les personnages, ont une vie. Elles naissent, se transforment, se marient parfois. Enfin bref, vous avez compris l'idée.
Guillaume Erner.
Ce podcast est donc la première tentative de traiter une idée comme un organisme vivant et agissant. Et pour débuter cette série, j'ai choisi de traiter une notion qui est littéralement partout, conjuguée sous toutes ses formes, la résilience.
Enquête d'idées, la résilience, un podcast en 4 épisodes de Guillaume Erner et Éric Lancien sur franceculture.fr et l'appli Radio France.